Radio Barque, donc notre troisième partie avec notre invité du jour, Jacques Bascou. On va peut-être commencer, Jacques Bascou, par un petit début de débat entamé tout à l'heure. Vous n'étiez pas d'accord sur le fait que votre collectivité, par exemple, ne soutient pas suffisamment l'ARCAM, les rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Alors qu'en dites-vous ?
Non, l'agglomération depuis le début, donc non seulement soutient cette manifestation, mais fait en sorte que les autres collectivités participent. Et on a essayé de montrer non seulement à la région, mais également aussi à l'État, au travers de la DRAC, que c'était un événement majeur, parce que pour Narbonne, qui va avoir, vous l'avez dit, ce musée, il est important d'avoir des rencontres qui vont permettre de faire connaître aussi le musée, puisque vous le savez, le musée, toutes les collectivités vont participer à son fonctionnement, et plus on aura de gens qui viendront ici, et moins la participation des collectivités sera importante. Donc quelque part, aider ce festival, c'est investir pour l'avenir. Alors quand je vous disais, le verre peut être à moitié vide ou à moitié plein, Monsieur Santo le voit plutôt à moitié vide, moi je le vois à moitié plein, parce que si on regarde par rapport aux autres années, la participation, même si on peut considérer qu'elle est minime, des autres collectivités, de la DRAC, de la région, ont augmenté. Même, si vous voulez, la ville de Narbonne, qui ne donne pas un centime, nous l'avons associé largement, puisque la veille, il y a eu une inauguration à la salle des synodes et le repas de clôture. Donc, il y aura, je pense, une prise de conscience de l'ensemble de ces collectivités sur l'importance de cette manifestation. Et donc, nous, au niveau de l'agglomération, nous sommes le premier contributeur financier et nous aidons depuis le début, en espérant, bien sûr, on ne peut pas prendre toute la charge financière, que l'année prochaine, le verre se remplira et que à la fois la DRAC, la région, le conseil départemental qui participe aussi également et la mairie de Narbonne, pourquoi pas au niveau d'une subvention, permettront de donner à ce festival la dimension qu'il mérite.
Oui, d'ailleurs cette dernière version a été, me semble-t-il, un peu plus œcuménique que les précédentes.
Oui, et bien que la ville de Narbonne met à disposition des salles, comme on le fait nous au théâtre, mais elle n'a pas donné de subvention, donc je suis persuadé que Didier Mouly comprendra la nécessité, effectivement, de faire remonter cet événement en puissance pour qu'à terme, justement, on puisse avoir une notoriété qui nous amène non seulement des professionnels de ce domaine, vous l'avez dit, des personnalités, mais également aussi des Français, voire des étrangers qui viendront au Musée de la Romanité, qui permettront d'avoir plus d'entrées et donc moins de contributions des collectivités au fonctionnement de cette structure.
Oui, ça, parce que ça va être une sorte de prolongation naturelle du musée, en quelque sorte.
Tout à fait. C'est la raison pour laquelle aussi on participe aux fouilles, alors que c'est pas théoriquement de notre compétence. Les collectivités doivent participer aux fouilles pour justement permettre non seulement de fournir le musée, mais également aussi de proposer un certain nombre de pièces et des vestiges donc à l'ensemble des musées, ce qui va aussi donner un coup de projecteur sur Narbomarsus.
Et là, vous faites allusion à la récente découverte de cette nécropole qui jouxte pratiquement, ça c'est un heureux hasard, qui jouxte pratiquement ce musée. Un mot, Michel ?
Oui, mais je prends note de ce que vient de dire Jacques Bascou à l'instant, et ce que j'espère sur l'année prochaine, il invitera Mme Carole Delga, en fait, et que Mme Delga fera la même annonce qu'elle a faite à Carcassonne, 100 000 € pour le festival.
C'est un espoir. Alors, revenons à l'actualité, Jacques Bascou, les gilets jaunes, on en a parlé tout à l'heure, évidemment, on ne pouvait pas éviter le sujet. On a appris hier que M. le maire de Narbonne, Didier Mouly, s'est déclaré solidaire. Alors, quid du président du Grand Narbonne sur le sujet ?
J'estime que, je ne vais pas faire l'analyse, on entend sur les chaînes d'infos continues des analyses diverses et variées, mais il y a une colère qui s'exprime, il y a un certain nombre de personnes qui effectivement ont des difficultés, c'est une réalité. La difficulté, vous l'avez dit au travers de toutes vos chroniques, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent pas représentés par les élus, et donc il y a un fossé qui se creuse entre les élus et la population, également aussi les syndicats, puisque théoriquement une crise comme ça devrait déboucher sur une mise à plat, non pas uniquement de la fiscalité écologique, mais de voir les difficultés que peuvent avoir un certain nombre de personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et il n'y a pas de réponse. Il y a effectivement un mouvement contre, mais il n'y a aucune proposition. Et j'y vois là une crise profonde. Vous avez parlé aussi de la justice. Vous avez parlé d'une avocate. Mais au-delà de ça, je vois là dans la semaine deux décisions de justice, l'affaire Tron et la dame, la Serena, qui avait mis sa fille dans un coffre de voiture, ça a été jugé et il y a eu appel du parquet général. Donc imaginez la justice aujourd'hui qui est rendue par des jurés. Et il y a des décisions de justice, quoi qu'on pense, qui sont remises en cause. Et aujourd'hui, il y a une crise profonde. Et vous parliez aussi des maires. Les maires aussi, il y a une difficulté parce que aujourd'hui, ils sont finalement dans les petites communes, les réceptacles de toutes les revendications. Ils n'ont pas forcément les moyens de répondre à des problèmes sociaux, à des problèmes de logement. Et je crois que la classe, si vous voulez, politique, n'a pas compris depuis des années qu'il fallait faire de la politique autrement. Aujourd'hui, on cloue au pilori les élus. Il y a eu aussi des dérives que les élus n'ont pas voulu modifier. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être conscient qu'il faut faire de la politique différemment. Le cumul des mandats, c'est une bonne chose de le limiter. Je crois qu'il ne faut pas penser que les choses vont continuer comme il y a 30 ans, 40 ans. Et on est souvent sur les vieux schémas. Donc je sais que c'est difficile de réformer. En France, mais une réforme, ça doit se faire non pas par de la communication, c'est ce que je reproche à ce gouvernement, parce que la personne qui a des difficultés pour boucler les fins de mois et qui s'aperçoit que donc il y a des suppressions, même si c'est plus complexe que ça, que de l'impôt sur la fortune, qu'il y a des rémunérations énormes de dirigeants, bon, à leur niveau, les gens, et c'est tout à fait logique, trouvent qu'il y a une injustice. Et donc à un moment, il faut remettre une régulation dans l'économie. Ce que je trouve, je ne veux pas aller sur un débat national, mais notre pays, on peut pas même il y a des pays qu'on ne peut pas qualifier ni de droite ni de gauche, donc une partie du chiffre d'affaires va sur donc la recherche, l'innovation, les salaires. C'est pas le cas en France. La France, c'est le pays où l'argent va le plus aux dividendes. Donc ça, c'est une réalité. Et moi, je suis pas dans des débats nationaux, mais par exemple, vous avez une entreprise ici, un laboratoire d'œnologie, qui réussit, c'est le premier en Europe, laboratoire d'œnologie qui a équipé de machines, 15% du chiffre d'affaires va à la recherche, à l'innovation, et le reste aux salariés. Au départ, il y avait 17 employés, aujourd'hui, ils sont 30. Et ça, c'est l'avenir au niveau des PME, et c'est pour ça que je pense que au niveau des entreprises, il n'y a pas que des patrons de combat, il faut essayer d'avoir un sentiment d'entreprise qui permet justement d'être en phase avec les marchés, avec l'innovation, avec la recherche, et non pas à toujours attendre de l'État.
Alors à propos de crise, Jacques Bascou, vous avez vous-même quitté le Parti Socialiste il y a maintenant un an et demi environ. Est-ce que c'était, dans ce geste, une façon de ressentir cette crise qui se profilait, que vous ressentiez personnellement vous-même et que vous exprimiez vous-même en quittant ce parti ?
Oui, je suis pour qu'il y ait des partis politiques. C'est une nécessité dans la République. C'est ce que je disais par rapport aux Gilets jaunes. Il faut qu'il y ait effectivement des corps intermédiaires et des gens qui représentent, qui se sentent représentés par des partis politiques. Sauf que, si vous voulez, aujourd'hui, on est uniquement, et c'est vrai au niveau national, mais c'est vrai au niveau local, uniquement dans la communication, dans le buzz, on simplifie les choses, on ne cherche pas des solutions, on est contre et on soutiendrait finalement tous les mouvements qui sont contre. Or, la responsabilité d'un politique, c'est d'amener des propositions. Et je trouve que les partis politiques ont été le drame de François Hollande. Ça a été, finalement, il a été victime, on peut penser ce qu'on veut de François Hollande, des non-choix du Parti Socialiste sur un certain nombre de sujets. On n'a pas tranché. Et finalement, c'est facile de monter une majorité électorale, mais une majorité de projet, c'est plus difficile. Et une majorité électorale, au premier soubresaut, parce que souvent les boîtes de communication vous disent, ils vous disent pas de mentir, mais ils vous disent de faire rêver les gens. Donc on fait rêver les gens, et ensuite on se heurte à la réalité. Et c'est en ça que j'ai estimé que les partis politiques ne répondaient plus finalement à l'exigence qui était celle d'un mouvement démocratique, un mouvement où on débat et un mouvement où on fait des propositions. On cherche à être majoritaire, et si vous voulez, aujourd'hui, avec l'état d'esprit de nos concitoyens, souvent à juste titre, on fait une majorité de mécontents, et souvent on vote contre à chaque élection plutôt que voter pour. C'est aujourd'hui une réalité. Vous regardez les présidentielles, vous regardez les municipales, vous regarderez les européennes, les gens vont voter contre. Et donc les élus ont plutôt tendance à essayer d'agréger des gens qui sont mécontents. Et là, l'intérêt général qui devrait justement présider à toutes les réflexions des partis politiques aujourd'hui, et ensuite, bon, je ne vais pas aller dans le détail, hein, je ne vais pas continuer, mais je crois aussi que nos structures administratives sont aujourd'hui dépassées. Si je défends l'agglomération, c'est que je pense que des structures comme les départements qui ont structuré la République, et c'était une bonne chose, oui, aujourd'hui, ont vécu. Et dans le malaise des maires, par exemple, moi j'entends les maires, on vient les voir pour des problèmes, si vous voulez, sociaux. Normalement, il devrait y avoir une réponse soit de l'État, soit des services. Que le maire puisse aiguiller les gens sur des services, c'est normal, c'est le rôle du maire. Mais on lui demande de résoudre des problèmes alors qu'il y a des structures qui ne sont pas laissées. Mmh. Alors qu'il y a des structures qui sont théoriquement là pour ça.
Ouais. Un mot, Michel.
Notamment les compétences départementales. Bon, effectivement, alors que dans le projet initial de la réforme territoriale, la suppression du département entraînait le transfert de la compétence sociale, notamment aux grandes agglos.
Et ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été fait.
Jacques Bascou, alors, concernant justement cette notion de crise que vous aviez ressentie, allons au-delà, vous avez également annoncé, alors c'est plus simplement une perception de crise, mais une retraite annoncée. Vous avez annoncé donc que vous ne vous représenteriez pas pour le prochain mandat. Donc ça veut dire qu'en tant que président, vous êtes à la fin de votre mandat. Quelle était l'idée qu'il y avait ? Simplement une lassitude, une notion de l'envie de prendre sa retraite, comme on dit familièrement ?
Une lassitude, sans doute, parce que je crois que quand on s'engage en politique, c'est qu'on pense qu'on peut changer les choses. Alors je dis pas que j'ai, à mon modeste niveau, j'ai pas changé les choses, mais je pense qu'on arrive finalement, et c'est la situation qu'on décrit aujourd'hui, au fait que les choses vont pas assez vite, que les gens n'ont pas le courage, vous parliez de démagogie, à un certain moment d'avoir des positions et de les tenir. Si on a des positions contre, si on suit pas le flux général, on est montré du doigt. Moi, je pense avoir fait pour le territoire, je veux pas dire, mais j'ai été battu aux dernières élections, mais si vous regardez ce qui s'est passé quand même dans le dernier mandat, que ce soit, alors même si c'était pas moi en direct, mais en fait on a facilité les choses, que ce soit une gendarmerie, une caserne des pompiers, que ce soit les aménagements des barques qui amènent aujourd'hui des tourismes, que ce soit dans le domaine social, les foyers des jeunes travailleurs, que ce soit les réhabilitations BRSS pour les HLM, 22 millions qui ont été investis. Bon, et finalement, c'est là-dessus que j'ai été battu, parce que les gens n'ont pas vu que les rénovations attendues depuis longtemps n'allaient pas assez vite. Donc j'ai l'impression qu'à la caserne Montmorency, qui permet aujourd'hui de faire une cantine, de faire des logements sociaux que j'ai eu pour le franc symbolique, je me suis battu pour ce territoire. J'ai essayé aussi de donner donc une vision plus large avec le port, la nouvelle, les éoliennes. Aujourd'hui, on est dans des filières nouvelles, que ce soit la recherche, l'innovation, où on est reconnu pour justement se positionner sur les métiers d'avenir. Tout ça, si vous voulez, je pense que j'ai fait des choses, mais il y a quelque part aussi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu politique qui est aujourd'hui ce jeu de court terme, ce jeu finalement d'un jeu de pouvoir et des débats qui pour moi aujourd'hui sont surréalistes et d'ailleurs qui n'intéressent plus les Narbonnais. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un projet pour Narbonne, il y a des gens qui ont de la valeur, il y a des talents sur le territoire. Il faut les agréger pour justement faire que notre ville puisse exister dans le concert des villes de l'art méditerranéen. Nous avons des atouts, mais ce débat, qui est finalement ce débat politicien, quelque part, je pense, nuit à l'ambition que devrait avoir une ville comme Narbonne, qui a rayonné par le passé, qui est bien placée dans la région Occitanie, et qui aujourd'hui a des atouts. Voilà, donc, lassitude sans doute, peut-être un constat que, finalement, on s'engage en politique, que je ne veux pas aller sur des qui ne m'intéresse pas.
Oui, voilà qui est clair. Alors en tout cas, vous êtes pour une année encore et demie, donc président de cette agglomération. Donc on s'est aperçu qu'elle avait pris une importance très très importante, notamment dans une importance très forte concernant justement le développement économique. Beaucoup de choses sont liées à cela. Alors quelle image aimeriez-vous ? Je ne veux pas dire que vous êtes un homme du passé, pas encore, Jacques Bascou, mais quelle image aimeriez-vous qu'on retienne de vous et de votre action ? Vous avez annoncé un certain nombre de réalisations qui étaient dues à la fois à votre mandat de maire et de président d'Aglo précédent. Aujourd'hui, vous êtes président d'Aglo. Vous avez lancé un certain nombre de pistes. Peut-être rappeler un peu les grands axes sur lesquels vous travaillez depuis maintenant 4 ans.
Oui, ça rejoint le débat. Je crois que une agglomération, ça doit créer des richesses. Il faut un niveau qui permette justement de monter des projets qui vont avoir des retombées économiques sur le territoire. Et justement permettre aux maires d'avoir, soit par le biais de fonds de concours, soit par des aides au niveau de l'ingénierie, c'est-à-dire d'avoir sur l'informatique, les services juridiques, sur également aussi l'urbanisme, d'avoir des services qui sont fournis par l'aglo. Et je me bats là-dessus, on mutualise un certain nombre d'éléments. C'est compliqué parce que, si vous voulez, les maires, vous l'avez dit, ont l'impression que les compétences leur échappent, mais je pense qu'il y a des compétences qui doivent être exercées à un certain niveau et avoir par exemple un plan local d'urbanisme intercommunal, c'est important pour l'aménagement du territoire. Et là, on est dans les mobilités, on est dans le développement économique, dans l'aménagement du territoire, et c'est une compétence donc de l'agglomération. Alors qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? Bien sûr, s'appuyer sur ce que sont les leviers du développement économique, c'est-à-dire les zones d'activité, zones de Montredon par exemple, sur les ports. Le port de Port-la-Nouvelle, moi je crois, et aujourd'hui avec les éoliennes offshore, c'est un élément intéressant pour le développement et la création d'emplois. C'est également aussi des financements, on n'est pas obligé, c'est pas nos compétences, mais de l'aéroport par exemple de Carcassonne, parce que on peut avoir des retombées touristiques. C'est également la viticulture qui aujourd'hui, malgré certaines crises, se développe. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui il y a des jeunes de talent sur les territoires, mais c'est également aussi avec le réchauffement climatique, lutter contre le stress hydrique de la vigne, les recherches qui sont faites à l'INRA, c'est d'essayer, et je fais la transition, c'est d'essayer de se positionner sur les filières nouvelles, le numérique. Nous sommes École nationale du numérique, nous avons eu un certain nombre de labels parce que nous formons des jeunes, et souvent des jeunes qui sont sortis du système scolaire sur le numérique. Il y a des besoins sur le terrain et c'est l'avenir. Également aussi sur les énergies nouvelles. Énergie nouvelle, c'est important, les éoliennes, le photovoltaïque, mais également aussi la méthanisation. Vous savez qu'à l'écopole de Lambert, avec Suez, donc on va faire une expérimentation, un pilote, pour avoir du gaz, notamment, et GRDF, le patron, a signé une convention avec Suez, le laboratoire des biologies de l'environnement de l'INRA, pour qu'on puisse avoir de la méthanisation. Et là, on rejoint aussi le problème des gilets jaunes, des fossiles, donc de l'essence, du fuel. Petit à petit, on va, c'est la transition énergétique, partir de ces énergies fossiles pour aller vers de nouvelles énergies. Et donc, on est positionné sur des filières d'avenir. Et pour moi, je trouve que c'est aussi une réussite d'avoir pu faire travailler donc des grandes entreprises comme Suez, Veolia, avec les collectivités. Alors certains reprochent parce que c'est des entreprises privées, mais ils ont des financements et des laboratoires de recherche qui nous permettent, par exemple pour Veolia, de récupérer les eaux des stations d'épuration. Vous savez que sur notre territoire, le problème du cycle de l'eau est un problème majeur. Nous avons fait des investissements importants justement sur les réseaux d'assainissement, mais également aussi sur la fourniture d'eau. Aujourd'hui, tout le monde ignore que, par exemple, lors des inondations, nous avons pu, grâce à un système, se branchant sur BR RL, avoir une continuité de fourniture d'eau sur le territoire, mais c'est 5 millions d'investissements sur Puech de l'Abade à Fleury. Voilà, donc l'avenir, c'est se positionner. La formation, c'est aussi une réalité. C'est notre problème ici. Il faut quand même savoir que l'agglomération de Narbonne, sur les emplois salariés, c'est 2,7% de création d'emplois. Bien sûr, avec l'héliotropisme et les gens qui viennent ici, donc nous avons du chômage. Mais c'est de se positionner. Et je suis pas pessimiste pour l'avenir, parce que vous disiez, vous êtes du passé. Je crois qu'on a quand même mis en place, malgré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les politiques, les procès politiques, la politique politicienne, il y a un projet qui est un projet d'agglomération qui a été voté par tous les groupes politiques de l'agglomération, qui justement trace des perspectives d'avenir. Et quelles que soient les alternances, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une équipe en place, vous avez une autre équipe qui est contre, pour gagner les élections. Donc on prend le contre-pied de ce qui a été fait par l'équipe qui est au pouvoir.
Ça se passe,
ensuite,
ça se passe beaucoup.
Comment?
Vous-même,
mais bien sûr. Non, sauf que quand même, là, il y a une différence, si vous voulez, parce que moi, ma façon de travailler, elle n'est pas spectaculaire. Mais lorsqu'il y a un projet, on l'étudie bien en amont. Je suis désolé, je ne veux pas aller sur ce sujet, mais quand le maire de Narbonne nous dit sur la salle multimodale, on va faire la salle et puis après on verra comment on le gère, c'est lui qui le dit. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On fait des études, hein, alors ça peut paraître long, on essaye de voir les besoins des Narbonnais, on essaye de voir la faisabilité du projet, et ensuite donc on le fait. Voilà, donc vous me dites, vous êtes l'homme du passé, je crois qu'on a tracé...
Pas encore.
J'espère pas du passif. On a de toute façon tracé des perspectives, et je regrette, puisque je l'ai dit à plusieurs reprises, que souvent, on dit qu'on regarde plutôt les trains qui n'arrivent pas à l'heure. J'ai eu pendant 5 ans... donc tout un procès en légitimité en disant la majorité de Jacques Bascou est fragile en fonction des alliances des uns et des autres. Je crois que si j'ai gardé le cap, c'est parce que justement je crois au projet et je crois justement à ce territoire. Et finalement, si on fait le bilan, malgré quelques petites turbulences qui étaient plus médiatiques qu'autre chose, il y a eu quand même une majorité de gestion, une majorité de projets avec des gens différents qui ont partagé mon analyse que notre territoire finalement méritait justement cette union.
Eh bien, merci Jacques Bascou. Bon, ce discours prouve que vous n'êtes pas encore l'homme du passé. En tout cas, pour une année et demie, vous n'êtes bien encore l'homme du présent, président de l'agglomération. Et je suppose qu'on vous retrouvera encore à ce micro quelques fois pendant ce mandat. Merci en tout cas de toutes ces informations. Le prochain invité sera... Alors, on va changer un tout petit peu de mode quand même de fonctionnement. Et ça sera un homme de théâtre, Jean-Claude Baudraco, avec l'homme du théâtre pagnolesque. Donc, changement donc de programme pour notre prochain invité. Je précise aussi que l'invité suivant sera Louis Privade, alors encore quelqu'un qui n'est pas un politique, mais qui a un rôle important dans la vie de la cité. En tout cas, aux auditeurs, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.